Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama pour une émission qui concerne bien des films qui sont soit sortis le 20 mai ou soit qui sont déjà sortis. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour Vincent,
bonjour Marine. Bonjour à tous.
Et nous allons bien notamment parler bien de films qui sont sortis à Cannes. Ce sera bien le cas du film d'Emmanuel Berco, La tête haute. On en parlera entre nous parce qu'on l'a tous les trois vu. Il sera question aussi de La loi du marché de Stéphane Brisé qui sort ce 20 mai et qui était en avant-première. Et puis ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial marché du travail. Et quant à vous, qu'est-ce que vous avez préparé ? Le meilleur et le pire, hein, je crois, Marine.
Oui, alors moi je vais vous parler d'un film qui sort aujourd'hui avec Jennifer Lopez, Un voisin trop parfait, qui est vraiment incroyable, ainsi que d'un autre film très bien, par contre un film autrichien, un film d'horreur qui s'appelle Good Night Mommy.
Et toi Manu, c'est Mad Max. Hein.
Bah, sans surprise, c'est Mad Max, et puis le film de Roger Corman en fin d'émission, L'enterrée vivante.
Et on commence avec Jennifer Lopez, aux prises avec un petit jeune.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Une professeure de littérature délaissée par son mari tombe sous le charme de son voisin, un jeune homme à peine majeur qui s'est lié d'amitié avec son propre fils. Un soir, sans même avoir l'excuse de l'alcool, elle cède à ses avances. Rongée par la culpabilité, elle tente de mettre fin à cette liaison, mais le charmant jeune homme aux abdos saillants se révèle être un dangereux psychopathe dont le sourire ultra bright dissimule un terrible passé.
Ça fait 9 mois et t'as pas demandé le divorce. Il couche avec sa secrétaire à chaque fois qu'il va au bureau.
T'as jamais fait d'erreur, toi?
T'es prête, maman?
Tire plus fort!
Et vous êtes?
Noah. J'habite à côté, chez mon oncle.
Alors t'es pas d'ici?
Non. Il y a eu cet accident. Et mes parents. Donc je vais faire ma terminale à Monroe.
Ma mère y enseigne.
Elle m'a l'air trop cool pour être prof. Vous êtes très belle. Pardon, j'aurais pas dû.
C'est rien. C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait dite depuis longtemps.
Oh, j'ai bien fait, alors. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, on a le sentiment d'être nulle part à sa place.
Il faut que je rentre.
Non, s'il vous plaît. Pas de jugement. Pas de règles. Rien que nous deux.
Écoute, Noah, j'étais vulnérable. C'est moi l'adulte. J'ai perdu la tête. Je peux pas faire ça.
Alors, commençons cette chronique par une remarque positive. Cela fait 15 ans que Jennifer Lopez fait du cinéma et on doit lui reconnaître cette remarquable aptitude à la constance dans le sens où elle n'a toujours tourné que des navets, ce qui lui vaut quand même une filmographie eh bien, assez unique en son genre. Constance également, à 40 ans passés, elle continue inlassablement d'avoir au moins une scène par film au cours de laquelle elle nous montre ses fesses sans raison scénaristique valable, histoire que le spectateur en ait pour son argent. Un voisin presque parfait n'échappera pas à ces deux règles immuables. Réalisé par on ne sait pas trop qui, et on s'en moque d'ailleurs éperdument, puisque Jennifer Lopez en est la productrice omnipotente, ce film ressemble intensément à une parodie de mauvais thriller américain des années 80, jusque dans son générique de fin incroyablement kitsch. On ne sait d'ailleurs pas trop si l'actrice constitue le seul intérêt du film ou si elle est au contraire son pire défaut, sans que son jeu soit foncièrement mauvais, hein, son personnage de MILF est si outré qu'elle insulte la pellicule. On sent qu'elle a accordé plus d'importance à la façon dont elle est éclairée qu'à celle de dire son texte, et chacune de ses apparitions convie la pire esthétique des séries télé ringarde. Jennifer Lopez a du gloss sur la bouche même quand elle mange. Jennifer Lopez a un brushing digne de Dallas même quand elle dort. Jennifer Lopez porte des robes en soie quand elle sort les poubelles. Et Jennifer Lopez pense que mettre une grosse paire de lunettes suffit à la rendre crédible en professeur de littérature. Alors faux semblants, mensonges, trahison, rien n'est crédible hein, et chaque seconde est un cliché supplémentaire qui enfonce le film dans un ennui convenu presque risible. On sent que le seul fait de trouver en français un titre correct était encore trop fatigant et The Boy Next Door, hein, donc en version originale, devient un voisin trop parfait, ce qui ajoute encore à l'impression de désuétude de ce film qui s'est manifestement trompé de décennies et de moyens de distribution car une sortie DVD eût été largement suffisante.
Eh bien son compte est réglé, ce film fait partie des sorties du 20 mai, voilà.
Oui, il sort aujourd'hui, au moins il n'est pas long. Hein.
Mmh. Ça ressemble un peu comme ça à tous les thrillers justement des années 80 pour leur côté ultra réactionnaire. Hein. Méfiez-vous de l'inconnu ou de voisins.
Le sexe est dangereux, il ne faut jamais céder à la tentation car le mal est là. C'est exactement ça.
Du mal, il en est question aussi dans un film qui était très attendu, c'est le Mad Max Fury Road.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Alors, retour gagnant hein, pour une saga culte qui s'était conclue en 1985 par un film, on va dire, généreux et sincère, mais globalement décevant, handicapé par un message écolo plutôt simpliste. Bref, Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre, n'avait pas réussi à rassembler les fans de la première heure, retrouver l'esprit furieux et graphique des deux premiers opus. Et ce, malgré la présence de Tina Turner dans un rôle assez délirant. Alors, toujours aux commandes, à 72 ans, hein, George Miller prend d'emblée le risque de sacrifier son personnage principal, Max, légèrement en retrait, c'est un euphémisme encore, moins bad que désabusé. Surtout, il ne revient pas sur la genèse, son drame personnel ayant causé la mort de sa femme et de son fils. Il compte sur la cinéphilie du spectateur ayant vu Mad Max, l'original, datant pourtant de 79. Alors à minima, il compte sur l'intelligence aussi, sur son intelligence du spectateur, pour saisir, en insérant quelques bribes de souvenirs, le trauma de son anti-héros, qui fut, en des temps antidiluviens, un représentant de l'ordre arborant un look cuir perfecto, limite SM. Alors, Max prend ici les traits de l'étrange Tom Hardy, comédien au physique un peu ingrat qui succède à Mel Gibson, qui sans être meilleur acteur, possédait à l'époque un charisme nettement plus apparent. Moi, je trouve qu'il a un physique un peu ingrat, avec ses oreilles un peu décollées, enfin, je sais pas, il est un peu bizarre, il fait un peu teubé même. Bref, bon, c'est une question de goût. Hein.
On réglera ça tout à l'heure,
oui. Mais on sent bien une volonté chez George Miller de mettre en retrait son personnage pour se concentrer sur celui beaucoup plus fascinant de l'impératrice Furiosa, entourée de jeunes femmes fuyant la tyrannie de la citadelle où sévit l'horrible Immortan Joe. Ce dernier enragé qu'on lui ait volé ses objets de fécondation part avec ses hommes pour traquer Furiosa et ses belles rebelles.
Mon monde est à feu et à sang.
Va se jouer sur le pétrole.
On s'entretue pour de l'essence.
Il n'y a presque plus d'eau sur la terre.
De l'eau.
Où est l'eau ?
On n'a
plus d'eau.
Ils sont de retour. Tout le monde est devenu fou.
Tout fait mal dans le désert. Vous voulez survivre ? Faites ce que je vous dis. Ramassez ce que vous pouvez et fuyez.
Quelle journée ! Quelle journée merveilleuse !
Attends. Comment tu t'appelles ?
Alors, première bonne surprise hein, de Mad Max Fury Road a mis en rogne, on va dire, certains critiques antiféministes, essentiellement aux États-Unis. Il y a toute une série d'articles comme ça qui sont assez étonnants. Alors, logique, dans un contexte de blockbuster américain de plus en plus rétrograde, réactionnaire et misogyne, hein, le dernier Fast and Furious en atteste largement. Et en quelques plans, une poignée de scènes courtes mais essentielles, Miller parvient à donner un peu d'épaisseur à ses filles, apeurées mais fortes, fragiles mais combatives du début à la fin. Alors, cette orientation idéologique dans le cadre d'un film d'action contemporain n'est finalement pas surprenante pour qui connaît un peu la carrière de l'Australien. Il en était de même dans son excellent Les Sorcières d'Eastwick, véritable brûlot féministe où trois apprenties sorcières s'en prenaient au diable, incarné par un Nicholson déchaîné, accumulant toutes les tares du mâle dominant, persuadé de sa supériorité et de son sex appeal. Alors, deuxième bonne surprise, Mad Max est un enchantement visuel, une œuvre admirablement mise en scène, enchaînant avec un vrai sens du timing les scènes d'action les plus jouissives et impressionnantes vues sur un écran depuis très longtemps. Alors, Miller transforme une course-poursuite classique en un trip visuel épique et haletant, de la première à la dernière bobine, enfin un festival de costumes délirants, de trognes pas possibles, un maelstrom d'images incroyables porté par un montage nerveux rendant parfaitement lisible la moindre explosion, tôle froissée, combat à main nue ou arme extravagante. Bref, on est en plein carnaval. George Miller s'offre aussi le luxe de réaliser des travelling avant, arrière et latéraux constamment novateurs, sans avoir recours aux images de synthèse, présentes néanmoins sur quelques plans, en fait, des plans d'ensemble, où il y a un petit lézard à deux têtes au départ, où je pense aussi aux bras coupés de Charlize Theron.
Je pense
qu'ils n'ont pas coupé le bras et une prothèse, ça se serait vu. Bon. Alors, la naïveté du propos ne dessert jamais cette incroyable odyssée au cœur du désert, traversée par certaines visions cauchemardesques, hallucinantes, nous rappelant que nous sommes bien dans un film en partie australien. Le scénario épuré, certes, mais parfaitement construit, fourmille d'idées extravagantes, hein, laisse aussi respirer les personnages, leur donnant aussi une dimension parfois humaine, assez inattendue. La première apparition des jeunes femmes comme une sorte de mirage prouve aussi que Miller n'a pas perdu son sens de l'humour. Et à ce titre, Charlize Theron est fantastique et nous venge de son interprétation calamiteuse dans Dark Places. Alors, post-nuke, hein, c'est le terme pour parler des films post-apocalyptiques. Hein. C'est un post-nuke excitant et virtuose, hein, barbare et violent, mais je le trouve jamais gratuit. Souvent drôle et constamment prenant. Hein. Alors Mad Max Fury Road est touché, je trouve qu'il est touché par la grâce et pour moi s'impose comme peut-être que le meilleur film de l'année. Et je ne vois pas comment il pourrait être détrôné par la suite. Enfin, j'ai vraiment réellement été impressionné. Et je l'ai vu deux fois, je pense que j'y retournerai une troisième fois. Et à chaque vision, le plaisir est augmenté, ce qui est assez étonnant.
Voilà, donc ça fait partie de gros blockbusters qui, effectivement, vont marquer l'année, d'autant que les bandes-annonces qu'on voit avant le Mad Max donnent une petite indication sur ce qui va venir cet été et qui, à mon avis, sera moins puissant en termes d'action. Enfin, parce que ce qui est remarquable, effectivement, et tu le dis, c'est que c'est un vrai film d'action, avec c'est très graphique, avec un vrai univers auquel on adhère tout de suite. Enfin, franchement, c'est une grande réussite.
Je pense que c'est le plus grand film d'action vu depuis 20 ans. J'en ai pas vu de meilleur.
Eh bien, nous sommes unanimes autour de cette table et donc c'était Mad Max Fury Road. Nous passons cette fois-ci à un film qui sort le 20 mai, qui est en compétition à Cannes. C'est La Loi du Marché.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Dans un récent entretien donné au quotidien Le Monde, Stéphane Brisé, le réalisateur de La Loi du Marché, cite deux cinéastes. L'un, Haneke, pour les silences nécessairement mis en place pour permettre l'émotion, et puis Ken Loach, pour sa manière de faire résonner l'intime et le social. Et là, je cite Brisé. Alors, ce qui est à l'œuvre dans La Loi du Marché peut se résumer à ces deux cinéastes. Alors, moins peut-être la gouaille propre au film de Ken Loach et moins le cadre parfois austère d'Haneke. Alors Thierry, Vincent Lindon, à la cinquantaine, il a perdu son poste, il s'est fait balayer par une entreprise qui a délocalisé et cela fait déjà bien plus d'un an qu'il est à la recherche d'un emploi et ça n'est pas folichon.
Alors moi je suis là dans votre bureau, ouais. J'ai l'impression de venir indéfiniment et...
Ouais, moi je vais vous dire franchement, la formation de grutier, vu votre profil, enfin, je vous aurais pas poussé à faire cette formation. Hein.
Ben oui, voilà, je l'ai faite maintenant.
Donc, voilà, donc il faut faire avec.
Je l'ai faite. Ouais. Si on n'a pas travaillé au sol sur un chantier, on peut pas être pris là-haut à la grue. Voilà. Oui, mais ça on nous l'a pas dit. Oui, mais ça on nous le dit pas. Donc on s'est retrouvé. Ouais. On était sur un groupe de 15. Il y avait 13 personnes qui avaient jamais mis les pieds sur un chantier de leur vie. Et pour eux, ça a servi à rien. Donc ou vous dites aux gens qu'il n'y aura rien à l'arrivée, ou sinon vous les envoyez vers quelque chose qui est utile, quelque chose qui sert.
Alors ça va s'arranger, hein. Il va enfin pouvoir dégoter un travail, mais ce nouveau job va le mettre devant un dilemme moral. Résumé, hein, La Loi du Marché, ce film de Stéphane Brisé. Alors on l'entend rien qu'avec le son de cette séquence qui illustre un rendez-vous donc avec un conseiller Pôle emploi. Nous sommes dans une forme quasi-documentaire, on reconnaît peut-être Vincent Lindon, hein, mais c'est mieux si on le voit. Quant au conseiller Pôle emploi, il s'agit d'un non-comédien, probablement d'ailleurs a-t-il été conseiller emploi auparavant, hein. C'est comme ça qu'ils ont fait leur casting. Donc La Loi du Marché est découpée en séquences très unies, pas en 71 comme dans 71 fragments d'une chronologie du hasard, film d'Haneke, mais dans un certain nombre, souvent en plan séquence, qui nous permettent de voir Thierry seul ou avec les autres, dans sa recherche au Pôle emploi, dans son épuisement avec ses anciens collègues qui veulent se faire justice, devant sa banquière ou encore en entretien Skype. Il est rare que Thierry change de lieu, on est donc quasiment dans un dispositif en temps réel, avec unité de temps et de lieu, des situations très réalistes et on s'en reprend une bouffée.
Oui, mais j'ai perdu 4 mois. Alors, entre la formation, les CV que j'ai envoyés, 4 mois j'ai perdu. Ouais. Donc j'arrive
à... vous dire. Oui, ouais, je pense après, là, l'objectif, c'est de repartir sur de la recherche d'emploi et de ne pas s'arrêter. Parce que bon, là, vous avez fait cette formation.
Oui, mais moi, dans 9 mois, je suis à l'ASS. Ouais. Je vais toucher 500 euros par mois. Alors je vais faire comment avec mes 500 euros?
Ah oui, Thierry cherche du boulot, Thierry négocie le remboursement de ses emprunts, Thierry essaie de s'amuser avec sa femme en dansant le rock, Thierry s'occupe de son fils handicapé. Alors ça ajoute forcément une difficulté, mais ça ne change pas grand-chose à l'affaire, et le film ne se joue pas là-dessus. De toute façon, Thierry est un type bon, c'est ce qui nous importe, et son parcours, eh bien, on le suit d'autant plus attentivement quand il se retrouve vigile dans un supermarché. On ne l'aurait pas vu là, mais pourquoi pas. Alors avec minutie, comme les autres séquences, on suit le personnage dans l'apprentissage de son nouveau poste. Il espionne tout le monde, y compris le personnel, il fait le job, la question est de savoir jusqu'où. Voilà donc le dilemme moral, jusqu'où est-il prêt à aller pour garder son boulot, un salaire qui lui permettrait de continuer à consolider ce qu'il a construit. Eh bien, il nous faut avoir vu patiemment ce personnage, quitte à passer par les silences, les dialogues insignifiants, pour saisir la pertinence du dernier tiers du film. On commence dans une ambiance de lutte des classes, pour finir dans un climat de tous contre tous, ou de chacun pour soi. C'est pas plus fin que ça, mais c'est pas plus bête non plus. Alors, ce n'est pas la première fois que Stéphane Brisé confronte ses personnages à une fonction ingrate. Si Thierry est ici agent de sécurité, dans Le Bleu des Villes, il s'agissait d'une pervenche, et dans Je ne suis pas là pour être aimé, eh bien d'un huissier. Chaque fois, ce qui intéresse Brisé est de confronter donc ces personnages ingrats à leur intimité. Donc, il confronte ici son personnage à son environnement social, au détriment de ses amis d'ailleurs, qu'on ne voit pas, il n'y en a même pas une seule évocation, ça, j'ai trouvé ça très étonnant. Donc, il se concentre vraiment sur l'entourage social, mais sociétal. Alors, durant ces plans-séquences, Vincent Lindon n'est pas toujours celui qui parle, il écoute aussi, il subit, il vit son personnage à la perfection. Il y a peu de coupes, de chant contre chant, quasiment jamais. Le travail avec les non-comédiens a donc été très bien mené, et Lindon, eh bien, s'y noie parfaitement. Voilà, donc je recommande ce film qui est donc en compétition à Cannes. Va-t-il remporter la palme ? Ça, j'en suis moins sûr. Mais en tout cas, il sort ce 20 mai, La Loi du Marché, film de Stéphane Brisé avec un étonnant Vincent Lindon. Ça donne l'occasion de jouer un blind test spécial film sur le monde du travail.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Les films français qui traitent du monde du travail, oui, voilà, c'est les films français. Hein. Alors, d'ailleurs, qui traitent du travail, mais qu'on l'ait ou pas, le travail ne sont pas si nombreux. Parmi les plus connus, on trouve Ressources humaines de Laurent Cantet, mais aussi Rosetta des Frères Dardenne. Oui, j'inclus aussi les films belges, puisqu'ils sont francophones. Eh oui, j'ai remarqué donc qu'il y avait des acteurs abonnés à ce genre de films, notamment Daroussin, qui a joué dans Rien de personnel, et dernièrement dans De bon matin de Jean-Marc Moutou. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, hein, où il tue deux de ses supérieurs, et après tout le film, on essaie de comprendre pourquoi il a fait ça. Et c'est aussi le cas d'Olivier Gourmet, hein, qui a la gueule de l'emploi et qui se retrouve dans deux dessins de films de ce blind test, spécial monde du travail et donc spécial film français, premier extrait.
J'ai appelé le syndicat et ils ont dit qu'ils allaient envoyer un délégué et ils vont donner 100 euros d'indemnité par année.
Les fumiers, 2000 euros pour se crever 20 ans au boulot?
2000 euros, ça fait combien en francs, Lola ?
6 fois 2, 12. 7 fois 2, 14, ça fait 13 000.
C'est ridicule.
Oui, voilà. C'était une longue séquence, c'est trouvé Manu.
Bah, c'était Louise Michel.
De Gustave Kervern et Benoît Delpine. On passe à un autre extrait qui sera peut-être facile.
Ça t'a pas coupé l'appétit ? Pas bien pour toi, c'est Noël, il te manque plus que le sapin.
Bonsoir.
Ça n'a pas l'air de te bouleverser, en plus, en moins.
Arrête, François.
Qu'est-ce qu'il faut pour que tu réagisses? Que ta viande soit pas assez cuite, hein?
Dis-moi.
Arrête, François.
Ferme ta gueule, toi.
Qu'est-ce qu'on pouvait faire?
Je te parle pas de faire, mais d'être concerné. Simon, c'était votre ami aussi, non?
Simon, il était aussi un peu malade, hein?
Mais ferme ta gueule, c'est toi qui es malade! Connard! Simon malade, Simon quoi? Qui dit mieux? Hein? Personne dit rien, bande de faux! Tu vas t'en foutre dans les poches pour ton 4 heures, là! Viens, ton cul, connard!
Putain,
Sonic! Attends, Jean. T'es qu'une merde! Une petite merde! J'ai même pas envie de te marcher dessus!
Voilà. Bon, Olivier Gourmet qui se met en colère, moi je file droit. Hein. C'est à la cassette en plus. Voilà. Alors, non?
Ben non.
Alors, c'est un film de Fabienne Godet. Alors, c'est dans le monde du travail, harcèlement moral et puis suicide. En l'occurrence, là, il est question d'un de leurs collègues qui vient de se suicider. Voilà, c'est pour ça qu'il rentre dans la colère, parce que le monde continue, hein, dans l'entreprise. C'est Sauf le respect que je vous dois. Mmh. Voilà. Je ne sais plus quand il a été... mais c'est un film assez récent. Voilà, premier extrait d'un film avec Olivier Gourmet. On y reviendra. Un nouvel extrait, normalement, assez facile.
Oh, c'est gentil, merci. Hein.
Ouais, il faut s'entraider. Hein. Demain, c'est peut-être mon jour.
Oh, vous êtes un pilier ici.
On est trois. Moi, je suis le plus ancien. Donc, le premier à gicler, forcément.
Oui, mais vous avez l'expérience.
Et c'est moi qui coûte le plus cher. Seulement, j'ai un plan. Si je perds mon boulot, je monte au bureau... Ça me tire une prune dans le citron devant eux. Devant eux.
Et pourquoi vous tirez pas une prune dans le citron d'un des deux autres ? Préventivement.
Alors, si on essaie de tuer ses concurrents pour trouver un travail.
Ah, ça me dit quelque chose.
Film de Costa Gavras.
Oui, c'est le coup près.
Le coup près avec José Garcia. Voilà, c'est trouvé. Un autre extrait encore. Alors là, je crois que c'est Olivier Gourmet.
Plein de choses à savoir. Ça, par exemple, c'est quoi pour toi ?
Un truc pour mettre les bières.
Ça a quelle forme ?
Rond ?
Non, c'est pas un truc. C'est un sous-boc. C'est circulaire, c'est épais de 1,5 mm.
C'est du carton.
Voilà, c'est du carton.
Vous foutez de ma gueule, là.
Non, la matière. Tu vas pouvoir désigner, sinon t'es foutu, tu fous les autres dedans. Une vis, c'est pas un écrou. Un rond, c'est pas un cylindre. Tu dois savoir décrire. Décrire, c'est connaître. Si tu mets pas les mots, on perd du temps. Et le temps, c'est de la dose.
Le temps, c'est de la dose. C'est ce qui est important.
Grande Centrale.
Grand Central, oui. Film de Rebecca Zlotowski. Avec, donc là, on écoutait Tahar Rahim et Olivier Gourmet. Tahar Rahim qui va bosser dans une centrale en tant qu'intérimaire. Et il y a aussi Léa Seydoux dans ce film. Alors, un petit bonus avec, dans ce film aussi, Olivier Gourmet qui s'énerve.
Si tu veux ta flotte, tu vas t'acheter ta flotte. Ici, tu fais pas ton rat. Parce qu'ici, de toutes les façons, c'est pas comme ça qu'on fait. Ici, on compte tous l'un sur l'autre. Si tu commences à jouer perso, ça va pas le faire, mon gars.
Ça va que si tu prends la flotte.
Je m'en fous, moi, de cette bouteille. C'est pas ça que je te dis. Tu comprends, là, ce que je te dis ? Hein ?
Oui, Marine vient de comprendre. Donc, c'était Olivier Gourmet donc, qui s'énerve, effectivement, dans Grand Central. C'est pas le seul moment, d'ailleurs, où il s'énerve. Et enfin, dernier extrait de ce blind test.
Alors, qu'est-ce qu'il y a ?
T'es venu surveiller mon travail ?
D'abord, j'aimerais que tu changes de ton. Tu me dis ce qui va pas ?
Je veux que tu me changes de mission.
Mais c'est pas un self, mon petit Philippe. Je t'ai choisi, c'est pas pour me déjuger en cours de route.
Je veux pas être un coupeur de tête. Tu te rends pas compte, c'est l'enfer de les voir défiler. Tous ceux qui remplissent pas les critères. Qui ont une vie pas possible, qui arrivent pas à s'adapter. Parce qu'ils le sentent, ils me voient venir.
Mais qu'est-ce que tu crois, on est tous passés par là ? Il faut que tu rationalises. Une entreprise tourne avec X employés, pas X plus 1. Si tu t'arrêtes sur chaque cas, tu oublies l'ensemble qui est de rendre cette boîte efficace, compétitive.
Mais il n'y aurait pas de rachat, il n'y aurait pas de plan social.
Oh, t'es très fort, t'as une sacrée maîtrise du marché. Moi, je te dis que c'est le contraire. On serait pas là, ce genre de boîte serait liquidée en moins de 2. Mais alors là, c'est tout le monde dehors.
Et pourquoi tu ne demandes pas un autre junior ? Il y en a plein au cabinet qui ça poserait pas de problème.
Belle mentalité. Je veux être consultant, mais je veux pas voir la réalité. C'est ça ton ambition, décortiquer des chiffres derrière un ordinateur ?
Alors, ça a presque été trouvé, parce qu'il faut remettre dans l'ordre.
Des échanges en milieu tempéré, c'est
oui,
pas ça ?
Oui, c'est ça.
C'est ça, film de Jean-Marc Moutou.
De Jean-Marc Moutou. Et là, on entendait le trop rare Laurent Lucas, et puis Jérémy Régnier. Et puis là, c'était clairement dans le monde du travail et dans ceux qui bien, sont chargés de faire le nettoyage dans les entreprises. Ainsi s'achève donc ce blind test. Nous allons passer maintenant eh bien, à un film autrichien.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, ça, une blague ou quoi ?
Fin de l'été, dans une maison luxueuse perdue au milieu de la forêt autrichienne, deux jumeaux, Elias et Lucas, jouent en attendant le retour de leur mère. Lorsqu'elle revient enfin, le visage entièrement recouvert de bandages suite à une opération de chirurgie esthétique, le doute s'installe. Est-ce toujours leur mère ? Elle semble avoir changé, se montre plus dure, enferme les enfants et se cache du monde extérieur. L'angoisse monte en même temps que l'incertitude dans ce huis clos qui oppose espace intérieur oppressant et scène extérieure bucolique presque irréelle. Le cocon familial rassurant devient peu à peu dangereux jusqu'à ce que les enfants décident de faire face à leur mère, ou plutôt à celle qui a pris sa place. Décidés à lui faire avouer qu'elle n'est pas leur génitrice, ses fils s'improvisent tortionnaires et les objets anodins du quotidien, fils dentaires, loupes, superglues, deviennent autant de moyens inventifs entre leurs mains innocentes. Ajouté à la cruauté un goût raffiné pour les cadrages et la lumière, un duo de jeunes acteurs au charme ambigu et le Funny Games de Michael Haneke n'est plus très loin. Mais il serait réducteur de mettre dans le même panier tous les thrillers d'outre-Rhin, d'autant que les réalisateurs, s'ils distillent ici la violence au compte-goutte, ne prennent pas la peine de la placer hors champ. Véronica Franz et Séverine Fiala signent une réalisation élégante et radicale qui fait souffrir ses personnages et ses spectateurs, un film d'horreur qui fait émaner l'angoisse des situations banales du quotidien. Le film mélange l'univers du conte et du torture porn, le drame psychologique et le fantastique, et la relation mère-enfant vue à travers le prisme du sadisme devient l'enjeu de scènes particulièrement insoutenables. Le personnage de la mère est d'ailleurs la personnification d'une réflexion sur la torture, une sorte de figure en souffrance perpétuelle qui convoque nécessairement nécessairement les yeux sans visage de Franju. Défigurée par un lifting au début du film, puis par ses propres enfants ensuite, elle interroge qu'est-ce que la chirurgie esthétique sinon une torture que l'on s'inflige à soi-même, et qu'est-ce que la maternité sinon une torture que l'on s'inflige à soi-même. Je pars un peu loin. Mais en tout cas, c'est un film vraiment incroyable et... incroyable. J'abuse. C'est un film en tout cas très intéressant, tant sur le fond que sur la forme. Et puis c'est un film autrichien, donc c'est pas hyper.
Qui ne serait pas du Haneke en plus.
Et donc voilà, et donc il n'est pas du Haneke, donc voilà, ça vaut vraiment le détour. Très belle ambiance et très belle atmosphère dans ce film. C'est le genre de film dont on se souvient pendant toute l'année, au moins.
Film sorti donc le 13 mai déjà. On n'écoutera pas la chronique de Manu sur le Corman, mais oui, ce sera la semaine prochaine. Mais on va écouter, on va parler de Cannes, comme qui dirait, et on va écouter, on va en parler plus exactement de La Tête Haute.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors c'est un film bon, projeté à Cannes mais hors compétition, La Tête Haute d'Emmanuel Berco. Alors c'est avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Sarah Forestier, ça c'est pour les connus, et puis aussi eh bien, le personnage masculin, le jeune Rod Parado. Dans la première scène, Maloney est abandonnée devant le juge des enfants par sa mère, séquence fondatrice dont va découler eh bien, tout le reste. On va retrouver Maloney à l'adolescence, chez sa mère, devant la juge, en centre ouvert puis fermé, ses vols et puis des rencontres qui lui permettront eh bien, de s'accrocher à quelque chose, son éducateur qui est passé par là, et puis il y a aussi une fille. Voilà, tout ça est un peu fondateur. La Tête Haute doit beaucoup à Police, que Emmanuel Berco avait co-scénarisé, une fiction nourrie par une veine documentaire, confrontation de la dureté d'un parcours, et puis eh bien, une émotion qui traverse le film. C'est un peu ce que tu n'as pas trop apprécié, hein, d'ailleurs, Manu, parce que tu n'avais pas plus apprécié Police.
Non, je n'ai pas aimé Police non plus. moi, c'est un peu, je trouve que les ressorts, on va dire, scénaristiques desservent énormément le film. Je trouve que les personnages mêlés comme ça, un acteur qui ne jouera peut-être pas grand-chose d'autre, hein, d'ailleurs, parce que il a l'air de vraiment sortir de la rue et le confronter comme ça à des comédiens qui, pour moi, surjouent, comme Catherine Deneuve ou Benoît Magimel. Je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Et puis, il y a une espèce d'élan que je trouve un peu optimiste, un peu forcé. C'est-à-dire que là, on sent que le film veut marcher, en fait, hein, auprès d'un public le plus large possible.
Tu veux dire qu'il y a des petites recettes ?
Bah, je pense que c'est un sujet qui peut être fort, qui peut être très noir, très dur, mais c'est un peu du Piala version light. J'adhère pas du tout. La séquence, une des séquences que je trouve un peu comme ça, que je trouve complètement... hors propos, c'est quand la juge va taper la franquette lors d'un déjeuner avec les délinquants autour d'elle, et puis ils ont l'air d'être amis ensemble. Enfin, ça me semble pas du tout crédible, même si ça peut arriver exceptionnellement dans la vie courante. Mais là, vu comme la scène est filmée, je trouve que rien ne passe, à part le fait que ça risque de plaire.
Est-ce que c'est un avis partagé par toi, Marine, ou pas ?
Alors, par rapport au jeu des comédiens, je ne serais pas aussi dur que toi, parce que je trouve qu'ils sont assez, crédibles. Sarah Forestier avec ses dents pourries, moi je l'ai trouvée très bien, personnellement.
Elle est très drôle, mais on dirait un personnage qui sort d'une comédie, et non d'un film dramatique.
Oui,
elle est sur le fil, un peu, j'ai l'impression. Voilà.
Oui, c'est vrai que vu qu'on l'a souvent vue, oui, dans des comédies comme ça. Sinon, il y a aussi la jeune Diane Rouxel, qui joue la copine, en fait, du personnage central, qu'on a découvert dans The Smell of Us de Larry Clark. Enfin, voilà, je tenais juste à le dire, parce que c'est son deuxième rôle, et je pense qu'elle est vraiment très bien.
Étonnant, ce personnage, hein, parce que c'est une tomboy, et je trouve qu'elle ressemble au personnage principal, au petit Maloney aussi, ouais. Donc il y a une espèce d'échange entre les deux.
Mais après, c'est vrai que la morale finale, moi, m'a un peu gênée. Voilà, le fait que la prison soit une rédemption, pour ce personnage central, j'ai trouvé ça assez douteux. Mais bon. Sinon, ça m'a plutôt plu. Hein.
Après, c'est pas forcément manichéen, c'est ce qu'on peut aussi apprécier. Enfin voilà, tu dis que la prison est une solution. Disons que, en tout cas, c'est mis en question. Enfin, le film n'est pas là pour dire la prison, c'est les centres fermés, c'est inutile, ce qu'il faut c'est toujours le dialogue et ainsi de suite, les éducateurs peuvent tout. Enfin, je trouve que le film montre aussi que ils ne peuvent pas tout et que c'est un travail de longue haleine. Enfin, c'est surtout ce que montre le film d'ailleurs, hein, c'est que c'est jamais gagné et c'est que ça peut durer très très longtemps, hein, puisqu'on suit la vie de Maloney, alors au moins les deux dernières années, voilà, on fait deux anniversaires, hein, c'est ça. Voilà, il a 15 ans, ensuite il en a 17, voilà, on souffle ses bougies.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Cannes continue et quelques films nous arrivent. Ce sera le cas du film d'Arnaud Desplechin, que nous aurons le plaisir de voir.
Oui, et puis je vous parlerai la semaine prochaine.
Et puis sinon?
Bah, La Poursuite de Demain, le blockbuster qui sort aujourd'hui.
Avec George Clooney.
Et voilà. Prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama. Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.